le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
Et on embrasse évidemment Franck Leboeuf qui doit nous écouter. Et c'est vrai que cette phrase est restée mythique. Moi, tu rigoles. Il nous écoute pas
ou pas? Oh, je suis pas sûr. Moi.
Ouais, pas sûr aussi. Bon, ouais. On l'embrasse quand même.
Bah oui, on l'embrasse. Oui,
avec ça, c'est sûr. Pierre Ducrot, François Manardo, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Mais également avec Timothée Mémon, notre spécialiste de la CAN, spécialiste de beaucoup d'autres choses, des Verts évidemment, mais de la CAN car il s'intéresse de près à cette CAN depuis deux. Nombreuses semaines, tu y es allé au début de la compétition et tu vas y retourner pour les demi-finales. Bonsoir Timothée.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là. On a pas mal de choses à évoquer avec toi, notamment à l'approche de ces quarts de finale. Ce sera dans quelques instants, mais je vous propose de terminer les principales informations mercato du jour. Bon, il y en a pas non plus énormément, mais je voudrais quand même vous faire partager cette information concernant Kevin Trapp, qui était prêté la saison dernière à Francfort. Et sachez que c'est le directeur général de Francfort qui a déclaré « J'ai déjà eu une très bonne conversation avec Leonardo et Leonardo lui a confirmé qu'il voulait garder à tout prix Kevin Trapp et qu'il ne repartirait pas à Francfort. »
Pour le faire jouer, j'espère. Enfin, pour le mettre numéro 1 à ce moment-là. Un gardien demi-finaliste de l'Europa League, bon, c'est pas, ça se méprise pas. Okay, il a des conditions à Paris qui, sans doute, il pourrait pas avoir à l'Eintracht. Mais... pour savoir ce qu'il veut faire de sa carrière. S'il veut faire de sa carrière et être numéro 1 au PSG, ouais, c'est. Puisqu'il est question
donc
d'un départ d'Areola.
Une situation où... hein? Ah oui, alors tu parles dans le
petit d'un départ d'Areola.
Au cas où Areola sera pas. Ouais, mais il est toujours là.
Mais on est qu'au début.
Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, moi je. Enfin, bon, je sais pas. Je sais pas.
Toi, tu garderais Areola et tu mettrais Kevin Trapp en deuxième.
Non, justement, je ne garderai pas Kevin Trapp et je prendrai quelqu'un d'autre parce que je pense que Kevin Trapp, effectivement, mérite d'être numéro un quelque part. Mais moi, je continuerai au PSG avec Areola, ouais.
Ok. Une dernière information à vous donner, c'est Mino Raiola qui a parlé à la radio anglaise Talk Sport et qui a parlé évidemment de la situation de Paul Pogba et de Manchester United. Il a déclaré « Le joueur n'a rien fait de mal, il a toujours été respectueux et professionnel, le club connaît son ressenti depuis longtemps. C'est dommage que d'autres personnes aiment seulement critiquer sans les bonnes informations et je suis également désolé que le club ne prenne aucune position à cet égard. Espérons qu'il y ait bientôt une solution satisfaisante pour toutes les parties. »
Du charabia comme il a l'habitude de nous en servir.
Ouais, je sais pas à quoi ça sert, mais...
Oui.
Bon, sinon, dans la besace, j'avais Yacine Bamou qui file en Turquie. Hein, il part à Alanyaspor, je le dis mal, évidemment. Alanyaspor, voilà. Timothée Mémon me regarde. Ouais, merci beaucoup, j'ai vu que tu me laissais tout seul sur cette histoire. Jordan Veretout qui se rapproche de la Roma, c'est selon une information de la Gazzetta dello Sport. Et puis le Bayern qui n'a toujours pas de réponse pour le roi Sané. C'est Karl-Heinz Rummenigge qui a déclaré le président du Bayern. Il rentre de vacances cette semaine et il ne voulait pas discuter pendant ses vacances. Il voulait encore réfléchir à son futur. Voilà,
le joueur s'ils prennent le roi Sané, le Bayern, ça laisse de la place sur le côté gauche à Manchester City.
Pour
Neymar.
Oh non. Tu crois?
Je dis ça, je dis rien. Mais l'argent, ils l'ont. Hein.
Ouais, après tout. Pourquoi pas.
L'argent, ils ont un effectif et ils peuvent lâcher du joueur en plus du pognon.
Ouais, ouais, pourquoi pas.
Non, mais comme j'ai dit, je dis ça, je dis rien. Parce que là, on est dans la supputation. Mais comme on fait 3 heures d'émission, qu'il faut bien meubler à un moment donné. Ouais. Moi, j'apprends que Leroy Sané, il va peut-être signer au Bayern. Je dis, ah, mais tiens, il y a une place qui va se libérer. Un poste où Neymar peut évoluer. Monsieur l'animateur principal.
Breaking news, dernière information que je sais pas va nous dire. Je voudrais vous donner. Oui, c'est vrai que je lève les doigts comme ça, je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, c'est pas du tout radiophonique. Sachez que. Non, pas sachez nous quand même. Selon Sky Sport, sachez que West Ham proposerait à l'Olympique de Marseille 40 millions d'euros plus Chicharito Hernandez contre Florian Thauvin.
Bah oui, je croyais que c'était pour reprendre du
coup. Payet, à mon avis, non, il est personnel non grata.
Vous en pensez quoi de ce deal?
Superbe.
Selon Sky Sport.
Ouais. Superbe.
Chicharito, quel avis là maintenant? Parce qu'il a commencé très 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 jeune. Enfin, très jeune.
Je sais pas. Je sais pas, mais ouais, moi je trouve que ce serait pas mal.
Putain de bon joueur, mais je l'ai plus vu.
Ce serait pas mal parce que l'OM a besoin de trésorerie.
31 ans, Chicharito, il vient juste de les avoir, c'était le 1er juin.
Ouais, ouais, non, mais ça reste un bon joueur déjà.
L'OM a besoin d'argent.
Et voilà, c'est surtout que l'OM a besoin de trésorerie et que c'est son joueur le plus qui peut lui rapporter le plus. Et je trouve que c'est
bien.
Ouais,
c'est bien, tu prends.
Ok, il y avait pas mal d'auditeurs justement via le hashtag RMC Live qui disaient
attention. Faut pas lui faire de la folie en termes de salaire là, comme ils ont fait récemment. Mais ça doit coûter très très cher en termes de salaire. Chicharito.
Ah oui. Ouais, c'est sûr.
Et donc je disais qu'il y avait beaucoup de supporters olympiens qui venaient nous interpeller via le hashtag RMC Live en nous disant vous parlez pas de Marseille et tout ça et on est vraiment désolé mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent du côté de l'OM. Le mercato n'a pas véritablement débuté mais c'est pour ça en tout cas qu'on voulait vous donner cette information de Sky Sport. Donc ce soir nous allons maintenant évoquer la CAN avec Timothée Mémon jusqu'à minuit. Les projections évidemment sur les quarts de finale, ça débute demain avec deux rencontres, Sénégal-Bénin à 18h, Nigeria-Afrique du Sud à 21h, et puis ces quarts de finale vont se poursuivre jeudi avec Algérie-Côte d'Ivoire. Le choc de ces quarts de finale, c'est jeudi donc à 18h, et Madagascar-Tunisie à 21h. Et justement, avec nous, en direct dans l'after, le gardien de but de Madagascar, Adrien. Bonsoir Melvin ou Melvin ?
Bonsoir, c'est Melvin.
Melvin.
Bah, bonsoir, qu'est-ce que j'avais Melvin. Dit, monsieur l'animateur principal ?
Melvin. Alors, Melvin, toutes mes confuses, j'avais un doute. Excuse. Donc voilà, je voulais...
Mais le doute est permis, j'y sais.
Évidemment, vous questionner là-dessus, mais ce n'est pas évidemment mon unique question pour vous ce soir. Merci d'être dans...
Bonsoir, Melvin.
Bonsoir.
Merci, Melvin.
Merci.
Merci,
bon match.
Au revoir.
Merci, Melvin. Déjà, félicitations pour votre parcours incroyable dans cette CAN. Est-ce que... Même vous, vous êtes impressionné par votre équipe.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Après, oui et non, parce que voilà, on sait que on avait une équipe quand même prête à ça. On s'est préparé, donc on donne tout sur le terrain. On essaye de faire le maximum pour pas avoir de regrets à la fin Et ça nous sourit, donc voilà, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire.
Ouais, en tout cas, pour le moment, vous êtes en train de passer toutes les étapes, toutes les épreuves. On se dit que ce sera peut-être le match de trop pour Madagascar, mais finalement non, ça passe à chaque fois. Est-ce que vous commencez peut-être déjà à rêver d'une finale? Je mets la charrue un petit peu avant les bœufs, mais j'ai entendu... Oui. Je vais reprendre ma question, parce que j'ai entendu le sélectionneur français de Madagascar qui avait déclaré... durant une conférence de presse pendant les matchs de poule, qui a déclaré, peut-être sous forme de boutade, mais en disant, non, mais l'Égypte, oui, ce serait génial de les affronter en finale, mais de toute façon, on les battra avant. Voilà ce qu'il avait déclaré en conférence de presse. Oui.
Sûrement une boutade, j'y sais quand même, c'est vrai.
Donc,
c'est
pour Melvin, est-ce que vous...
la conférence de presse.
On va le laisser répondre. Melvin, est-ce que vous pensez déjà à rêver à cette finale?
Déjà, on va essayer de passer les quarts, déjà. On va prendre ce match-là, déjà, pour essayer d'enchaîner la suite, pardon. Après, on joue au foot pour ça. On rêve d'aller le plus loin possible dans les grandes compétitions comme ça. Maintenant, voilà, on a un quart de finale. On s'est déjà penché dessus. On travaille pour pouvoir passer ce tour-là et pourquoi pas aller en finale.
Ah, j'imagine que vous le savez mieux que nous, mais c'est de la folie au pays avec votre parcours incroyable. C'est vrai que Madagascar n'a pas forcément eu l'habitude de briller sur la scène internationale comme ça. Est-ce que vous êtes devenu, vous, personnellement, le nouveau héros de Madagascar? Car on sait que vous avez notamment brillé durant la séance de tir au but face au Congo en huitième de finale.
Merci, c'est gentil. Héros, je sais pas, mais voilà, en tout cas, quand je monte sur le terrain, j'essaie de tout donner pour le pays, parce qu'ils sont tous derrière nous. Voilà, ils sont 25 millions à être derrière nous. On essaie de faire le maximum pour eux. On essaie de tout donner sur le terrain. Je pense que c'est le plus important, le terrain. Après, en dehors, voilà, ça se passe plutôt pas mal aussi, mais en tout cas, on essaie de rendre le peuple, et c'est le plus important aujourd'hui.
Melvin, sachez que, évidemment, dans l'after, je suis accompagné, et ce soir, François Manardo, grand ami de Michel Platini, qui est avec nous. C'est une belle présentation, ça.
Par rapport à la question que je posais à Melvin.
Bah parce que comme
mais c'est toujours bien de le lire.
Melvin, il se dit, ah bah attends, je suis avec un copain de Michel Platini,
mais
c'est
on
ça.
Mais on s'en fout complètement. Vas-y, on s'en fout que t'as compris.
Seb Blatter, tu vas salir tout le monde. Ouais.
Melvin, ouais, faut pas écouter ces bêtises. Non, Melvin, une question, et puis pour le coup, j'espère qu'elle est un peu plus sérieuse. Mais
Tu disais que tu as été surpris et pas surpris par le parcours des Barea. Mais est-ce que vous avez commencé à prendre confiance en vous dans la préparation en vous disant, mais tiens, on voit nos entraînements, tout ça, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, le coach, il a un message qui passe bien, qui nous donne de la confiance? Ou est-ce que toi, tu mettrais ça en plutôt sur le déclic aussi du premier match contre la Guinée? Parce que,
et même en phase de qualification, peut-être aussi.
On prend la température avant, votre premier match, en plus, dans une Coupe d'Afrique des Nations, première phase finale, on disait autour de nous, hein, en coulisses, ça va être très 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 dur. Et finalement, ça finit par ce nul de 2. Est-ce qu'il n'est pas là aussi le déclic?
Oui, aussi, peut-être. Mais après, je pense qu'il y a les phases aussi. Il y a les phases de qualification.
Bien sûr.
On a des joueurs.
Il y avait qui dans votre groupe?
Donc, c'est des joueurs qui ont confiance en eux. On a une très bonne équipe avec beaucoup de qualité. Et on essaye de s'adapter aux uns et aux autres pour pouvoir être le plus performant possible.
Une autre question.
Moi, j'ai une question, même si je suis pas ami avec Michel Platini, je peux.
Oui. Qui êtes-vous? Il est ami avec Flavien Tay, Melvin.
Alors, plus d'un temps où je jouais au football comme toi, Melvin. Moi, j'ai l'impression que ce qui fait la différence est, outre, comme tu l'as dit, la qualité des joueurs, parce que il y a que nous, finalement, qui sommes surpris et qui avons oublié que Madagascar, maintenant, depuis quelques saisons, ce sont des joueurs de qualité qui jouent dans des championnats européens. Alors, pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns, comme beaucoup d'autres sélections africaines. C'est la différence avec le Madagascar d'avant et le Madagascar d'aujourd'hui. Et finalement, ils sont peut-être à leur place aujourd'hui, après 3 ans avec Dupuis.
Tu veux dire qu'avant, c'était plutôt une sélection avec des joueurs
Melvin, tu me dis si je me trompe, mais avant, c'était uniquement des joueurs locaux. On n'avait pas la politique
en
de Afrique, la fédération.
Enfin, en Afrique, sur d'autres pays africains ou sur l'île.
Ouais, c'est ça, voilà. T'avais pas les binationaux, en gros, qui étaient pris et qui étaient sélectionnés. Hein. C'est ça, Melvin, je me trompe pas.
Non.
Voilà, c'est la grosse différence. Mais ma question, c'était pas celle-là. C'était, moi, j'ai l'impression que ce qui fait la différence, c'est que vous avez tous très envie et que cette CAN est un gros cadeau pour vous tous, pour bien figurer, pour prendre du plaisir. Et par rapport à d'autres sélections, peut-être que Timothée pourrait l'a peut-être ressenti aussi sur place. J'ai l'impression qu'il y a des sélections où il y a des joueurs, en tout cas parmi ces sélections, qui viennent un peu à reculons maintenant à la CAN par rapport à leur club, par rapport à un contexte, etc. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui fait la différence chez vous. C'est que vous avez tous envie, avec cette équipe, de faire quelque chose de bien et de rester le plus longtemps possible.
Oui, bien sûr. En tout cas, on essaye de tout mettre à notre disposition pour être prêt. Après, je pense que l'équipe qu'on a, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, c'est notre première à tous, à l'équipe. C'est la première, c'est historique pour Madagascar. Aujourd'hui, on se passe le mot parce que c'est très important pour nous. C'est pas la même vie qu'en club, donc il faut vivre le moment, il faut tout donner. Ouais. Et comme on dit souvent, c'est 90 minutes un match, donc 90 minutes, on va dire, c'est rien dans une vie, mais on donne tout pour pas avoir de regrets à la fin, et je pense que c'est ça le plus important.
Ouais, sans complexe, hein, Madagascar, depuis le début de la compétition, je précise que Melvin joue à Martigues.
Voilà, tout à fait.
Cette saison.
Et oui. il a joué à Amiens aussi.
Amiens, Mulhouse, exactement.
Ouais, Melvin, sans dévoiler de secret sur votre futur adversaire en quart de finale, la Tunisie, qui est arrivée en quart de finale, Timothée, je me trompe pas, avec 4 nuls hein, maintenant.
Absolument.
Donc 4 nuls pour se hisser en quart de finale de la CAN. Alors, sans dévoiler de secret, qu'est-ce que tu penses des points forts et des points faibles des Aigles de Carthage? Vous avez déjà commencé à bosser dessus?
Comment?
Vous avez déjà commencé à bosser dessus?
Oui, bien sûr. Après, on a notre préparateur vidéo qui est là et qui travaille encore. On a regardé le match tous ensemble avec l'équipe. On était tous devant le match, donc on a vu les qualités des Tunisiens et voilà, on sait que c'est une très grande équipe. Et aussi, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'habitude de cette compétition, donc ils ont plus d'expérience dans cette compétition que nous. Mais voilà, ça reste un match de foot. C'est sur 90 minutes, voire peut-être plus pour les prolongations ou autres. Mais voilà, c'est un match de foot avant tout. Et on sait que dans le foot, Tout peut arriver.
Alors, bon, c'est peut-être que tu réponds pas directement à ma question, mais pour la reformuler autrement, ou alors pour t'aider un peu, est-ce que tu trouves pas que votre sélection, vous réussissez à mettre plus de rythme dans les matchs déjà que les Tunisiens?
Clairement, est-ce que vous êtes favori, Melvin?
Non, mais plus de rythme, ne serait-ce que ça, parce que moi, je vois les matchs de la sélection tunisienne, ça joue, quand ça joue,
c'est plus enthousiasmant de regarder Madagascar
mais
aujourd'hui.
Carrément. Il y a plus de rythme, dans les duels, je les trouve plus présents, techniquement même, je trouve qu'il y a des phases de jeu qui sont intéressantes, moi, j'attendais de voir Msakni, Kazri, Sliti ensemble, sur les phases offensives tunisiennes, je les ai vus par à coup, hein, et encore.
En gros, Melvin, il y a un coup à jouer.
Oui, bien sûr. Si on est là, c'est que on a joué tous les coups à fond et on va jouer ce quart de finale à fond aussi.
Bon, en tout cas, merci.
Là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, notre force aujourd'hui, c'est notre jeu. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on sait faire. On va jouer avec nos qualités. Et après, à la fin du match...
Votre jeu, tu le qualifierais comment? C'est plutôt un jeu que vous essayez d'entraîner vers le jeu offensif ou alors une bonne organisation des...
Non, je vais laisser répondre Melvin, ouais. Mais je trouve ça assez complet comme jeu, moi. On en avait parlé avec le sélectionneur. Il y a des compétences de lors des phases de possession de balles. C'est une équipe qui peut subir aussi un petit peu, qui est costaud défensivement. C'est une équipe aussi qui peut aller parfois très vite quand ils partent de plus bas, très vite en compte. C'est assez complet.
Alors Melvin, t'es d'accord avec tout ce qu'on dit?
Oui, je suis d'accord avec vous.
Voilà, et Melvin va remporter la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais, c'est comme... Moi, j'avais une dernière question, on a le temps, JC?
Très rapidement. Ensuite, Melvin nous fait le plaisir d'être là.
C'est hors foot. T'as du monde, de la famille, des amis à Madagascar. Tu sais comment ça réagit là-bas? Vous avez des retours? Vous savez comment ça, l'engouement que ça suscite?
Oui. On a des retours assez réguliers avec tous les gens qui sont sur place. On a eu aussi la visite du président, de monsieur le ministre, etc. Et ça prend vraiment, c'est le feu. Le feu. Mais nous, comme on est dans la compétition, on voit pas tout ça. On essaye de rester concentré pour les prochains matchs.
Ah, mais ça peut être une force aussi. Ça peut être une force aussi de savoir que tout le monde est derrière vous.
Ouais, bon, je pense qu'ils sont bien au courant. Ouais, je pense qu'ils doivent avoir beaucoup de textos et de nouveaux habits. Melvin doit avoir plein de nouveaux copains. En tout cas, sachez de toute façon que vous avez déjà largement réussi cette CAN, mais on espère que vous allez aller encore plus loin. Mais de toute façon, vous allez.
Moi, pas trop, parce que je suis franco-tunisien, donc moi, s'ils peuvent s'arrêter en quart de finale, voilà, bravo, merci.
Tu viens de le dire à la fin de l'interview, toi.
sachez, Melvin, que vous allez avoir un accueil formidable de toute façon à votre.
Retour
à Madagascar. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans l'after à 48 heures d'un match si important face à la Tunisie. Merci Melvin.
Ciao Melvin.
Merci à vous.
Ciao Melvin. Tu te rends compte que Madagascar réussissait à gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ils font la Coupe des Confédérations dans la foulée. Tu peux avoir un Brésil-Madagascar en Coupe des Confédérations.
Ce serait génial.
Ah, extraordinaire. Le rêve éveillé. Brésil-Madagascar. France-Madagascar.
Mais bien sûr, ce serait absolument incroyable et on espère en tout cas, on va suivre cette nation, même si je sais que tu seras un peu plus pour la Tunisie, on a bien compris. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour continuer de parler de la CAN et puis on donnera la parole à Timothée Mémon, qui est quand même venu nous parler de ses quarts de finale avec quatre matchs.
Il y a des notes colorées, organisées, là je vois ça, ça vaudrait le coup quand même de savoir
s'il va se casser dans le cahier. Et quand il prend le petit calepin, Timothée,
attention,
c'est pas pour beurrer les dents.
C'est du boulot de Stéphanois, okay. Ça, regarde-moi ça.
Allez, à tout de suite sur
RMC, l'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, François Manardeau et Timothée Mémon pour parler de la CAN avec ses quarts de finale, Sénégal-Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Algérie, Côte d'Ivoire, Madagascar, Tunisie. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 si vous voulez réagir sur cette CAN. Alors nous sommes avec Timothée Mémon qui va donc repartir en Égypte dans quelques jours, vendredi précisément, pour assister aux demi-finales et pour nous les faire vivre évidemment en direct en intégralité sur RMC. Il y a quelques instants, on a parler de Madagascar qui va donc affronter la Tunisie. Ce sera le dernier match de ces quarts de finale. Et sachez que Mouezza Senn, le gardien tunisien, a réagi sur les réseaux sociaux.
Il n'était pas content hier soir. Hein. Il a réagi hier soir déjà. Ouais.
Après sa sortie prématurée lors de la séance de tir au but où il a été remplacé par Alain Giresse, par le deuxième gardien, censé certainement être meilleur lors de cette séance de tir au but.
Et finalement, ça s'avérait être juste.
ça a qualifié. Oui. La Tunisie, il a déclaré.
On aurait pu en sortir trois aussi.
Mais oui, exactement. Mais bon, hey, les faits sont têtus. Les faits sont têtus, monsieur Mémon.
Ils ont gagné avec Ben Moustapha, il n'y a pas de problème.
Et il a déclaré, je tiens à revenir sur l'incident d'hier et je commencerai tout d'abord par présenter mes excuses à mon coach, mes coéquipiers ainsi qu'à tous les supporters de l'équipe nationale. La pression de la partie ainsi que mon enthousiasme à jouer pour mon drapeau ont été les raisons de ma réaction regrettable au cours du match contre le Ghana. Je suis aussi conscient que l'esprit sportif m'a fait défaut pendant ce laps de temps. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours fait preuve de professionnalisme, de patriotisme et d'un fort sentiment d'appartenance à mon équipe nationale. Je tiens à réitérer mes excuses à tous et je compte sur la compréhension du staff, de mes coéquipiers ainsi que des supporters et m'engage à avoir une attitude positive
long,
là, et un esprit de cohésion.
C'est long parce que c'est pas la fin du monde.
C'est long, c'est pas si grave.
Alors moi je vais vous donner une petite anecdote. J'étais à Rennes donc hier soir et on a regardé le match dans un restaurant parce qu'on avait fini de travailler. Donc voilà, avec des membres du Stade Rennais. Et effectivement, quand on assiste à ça, on dit qu'est-ce que c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est pas bon le message que tu renvoies à tes coéquipiers. Qu'est-ce que c'est pas bon le message que tu renvoies pour ta propre image. Qu'est-ce que c'est pas bon pour le garçon qui rentre et qui va devoir être performant dans une séance de tir au but qui est très importante pour tout le monde, pour tes coéquipiers, pour le pays, etc. Ouais. Et bah tu sais quoi, bravo à lui, voilà.
Oui,
il a eu une mauvaise réaction, ça peut arriver. Et il a une très bonne réaction, il assume. Je trouve que les mots sont très justes, ce qui est pas toujours évident, même avec le recul, d'avoir des vraies excuses avec les bons mots. Et moi, je trouve ça très bien.
Un bon avocat aussi pour écrire le
mot.
Ouais,
Mais non, il y a la qualité d'être entouré.
Et c'était pas
hier, je vois aussi le côté orgueilleux qui, absolument, faire passer ton orgueil avant l'intérêt collectif de l'équipe et même du pays derrière qui regarde ça. Mais il y a erreur.
Il l'a dit et il assume et bravo à lui. Voilà, c'est comme ça qu'on range une erreur au placard et que c'est fini.
Exactement, et qu'on n'en parle plus. Le dossier est clos. Avant d'évoquer tous ces quarts de finale, on va quand même revenir sur cette compétition dans l'after, car Timothée. Grand enseignement de ces quarts de finale, c'est que les favoris annoncés, l'Égypte, le Maroc, ne sont plus là.
Absolument, ça a été vraiment l'hécatombe et puis surtout le cataclysme en Égypte, l'exclusion notamment des pharaons. C'est forcément peut-être l'équipe sur laquelle on a le plus envie de s'arrêter, parce qu'au début de cette compétition, tout le monde le disait, elle était presque jouée d'avance. On pensait que l'Égypte à domicile allait gagner. Ils avaient sur le papier une des meilleures équipes. Ils jouaient à domicile dans une compétition qu'ils ont déjà organisée 5 fois. Chaque fois qu'ils l'ont organisée, ils l'ont gagnée, sauf une fois. Ils ont gagné 4 fois à domicile. Il y avait un engouement populaire certain. Il fallait voir le match d'ouverture. C'était absolument fabuleux. J'avais la chance d'être au Stade International du Caire. C'était une ambiance extraordinaire avec des gens qui ont rempli le stade 6 heures avant le début de la rencontre. Bref, tout était là, tout était réuni et puis patatras face à l'Afrique du Sud. Le Maroc aussi faisait partie des favoris. Alors évidemment, on a l'impression d'une certaine manière que ça a éteint la compétition. En tout cas, c'est le ressenti sur place. J'ai pas mal de confrères avec qui je discute qui sont là-bas et des joueurs également, que ça a un peu éteint la compétition, que la CAN s'est arrêtée en Égypte puisque l'Égypte n'y est plus et que les Égyptiens ne s'intéressent pratiquement qu'à leur sélection. La preuve en est, les stades sont vides. Et pourtant, la vérité, et c'est ce qui est intéressant, c'est que sportivement, ça l'a ouvert, cette compétition. Ça laisse place à d'autres favoris potentiels. Alors, pas le Maroc, évidemment, puisqu'ils ont passé à travers, mais on va peut-être parler de l'Algérie, qui est devenue le favori, mais on ose à peine le dire quand on voit ce qui se passe, quand on a le statut de favori sur le dos dans cette CAN.
Si, parce qu'ils ont montré autre chose quand même pendant cette CAN.
Absolument, ils ont montré vraiment autre chose. L'Algérie, c'est 4 victoires, 9 buts, 0 but encaissé depuis le début de la compétition. On va dire un jeu efficace, pragmatique, sans fioriture, à la Jamel Belmadi, on est tenté de dire.
Jamel, on a été formés ensemble au PSG, il y avait quelques fioritures avant.
Il aimait ça.
Il y a le talent qui s'exprime aussi.
Il aimait ça.
Il y a du talent aussi, bien sûr.
C'est pas que carré cadré. Hein.
Non, c'est du talent dans le jeu.
Justement, défensivement, c'est carré cadré. Mmh. Et devant, c'est l'information, je trouve, c'est l'un des enseignements de ce début de compétition. C'est que Sadio Mané peine à porter le Sénégal, que Salah n'a pas su porter les pharaons, et qu'il y a un mec qui tient son équipe, peut-être pas à bout de bras, mais en tout cas qui joue pleinement son rôle de clutch player, comme on dirait en basket, de star, c'est Riyad Mahrez, qui est clairement au-dessus, qui survole, qui joue, qui fait jouer, avec des joueurs comme Adam Ounas, qui pointe le bout de leur nez, parce que mine de rien, Adam Ounas, on en parle depuis très longtemps, que ce soit en club ou en sélection,
très efficace,
mais qui peinait quand même un petit peu à être efficace, le voilà efficace. Bref, on a l'impression que tout est là. On rajoute à ça Bennacer là, au milieu de terrain, qui est peut-être la révélation de cette compétition, qui est excellent dans tous les secteurs du jeu.
On a l'impression aussi, hein, que c'est l'équipe droit.
Bien sûr, la défense est excellente. Attal de Nice, il y a pas de problème avec Jamaleddin, pardon, qui est un joueur qu'on attendait pas forcément titulaire, qui est dans la rotation, qui est très bon dans le registre qu'on lui demande, à savoir être efficace, costaud derrière, mettre quelques coups, sortir les coups d'une fois de temps en temps. Bref, tout est là. On a vraiment l'impression que tout est là avec Aïssa Mandi, avec Ben Sebaïni, des joueurs qu'on connaît bien en France.
Et tu l'as dit, hein, forcément, cette étiquette de favori, mieux vaut ne pas l'avoir dans cette CAN, mais forcément l'Algérie l'a récupéré. Mais c'est vrai que c'est une véritable affiche, Algérie-Côte d'Ivoire, même si ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'il y a encore quelques années et celle notamment de Didier Drogba. Elle a beaucoup changé, cette équipe ivoirienne.
Les amoureux du foot africain ont souvent en tête le Cameroun et la Côte d'Ivoire comme véritable tête d'affiche. Les maillots sont beaux, les joueurs sont mythiques. Et bien cette année, cette Côte d'Ivoire, je suis presque envie de dire j'ai mal à ma Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose depuis le début de la compétition. On a une équipe inquiétante qui est passée sans briller jusqu'à présent. Face au Mali, ça a été extrêmement difficile. Une victoire 1-0 à l'arraché. Oui, alors, il y a dans la cage un gardien qui s'appelle Sylvain Gbohou, qu'on connaît pas bien en France, qui est le portier du tout-puissant Mazembe, qui a été très bon cette saison, qui a fait une saison très complète, qui a fait une phase de poule relativement rassurante aussi, qui a été très très inquiétant lors des huitièmes. Ils vont avoir besoin qu'ils se ressaisissent très sérieusement. Devant, Zaha, Khadija, des joueurs, on a l'impression qu'il leur faut 12 occasions pour finir par en mettre une au fond. Et puis il y a les choix aussi, les choix de l'entraîneur qui lève quelques questions. Par exemple, Maxime Gradel, qui a été relégué. Alors, il y a un petit pépin physique, mais qui a été relégué sur le banc. On a quand même l'impression qu'il apportait du lion. Et puis peut-être pour finir, Nicolas Pépé
bien qui sûr, est c'est pas... quoi sa canne pour l'instant? On n'a pas l'impression de le voir véritablement.
Pas le moindre but pour le moment. Il fait une canne. En fait, on le reconnaît pas. On le reconnaît pas parce que il y a des individualités dans cette équipe ivoirienne. Il y a rien à dire. Zaha est un bon attaquant à Crystal Palace. Pépé est un excellent attaquant au LOSC. Mais on le voit dans son jeu. Il cherche les automatismes qu'il a à Lille et il ne les trouve pas du tout.
C'est exactement
avec
ça, Timothée.
Ses latéraux.
Déjà, il a pas le même rôle. Il est pas placé pareil. Et puis, t'as raison. On sent que dans son jeu, il cherche des relais qu'il ne trouve jamais. Et donc, il force individuellement les choses. Et quand c'est comme ça, bah, en face, t'as des joueurs qui savent défendre. Hein, surtout arrivé en huitième et maintenant, voilà, en quart de finale, ça va être encore plus dur. Donc, c'est pas le Nicolas Pépé qu'on connaît, fluide, rapide, percutant, qu'on a eu au LOSC cette saison.
Ouais, qui marque et qui fait marquer, hein, parce que pour le moment, ça marche pas du tout. J'ajouterais simplement que les consignes pour les deux latéraux qui sont très critiquées en Côte d'Ivoire, les deux latéraux de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le talon d'Achille au regard des Ivoiriens, ont des consignes assez claires de pas trop dépasser la ligne médiane, et ça aussi ça gêne beaucoup Nicolas Pépé, parce que forcément quand ton latéral dédouble, ça te crée des espaces, et ces espaces il les a pas.
Ouais, c'est des consignes d'un autre temps, ça, quand même. Ne pas dépasser la ligne médiane, on me disait.
C'est des consignes frileuses.
Oui. Pas possible. Voilà, peut-être pas véritablement confiance en ces latéraux.
Mais peu importe, ça dépend du match, de la situation, des actions, etc. Tu peux pas avoir ce genre de. Enfin, je sais pas si c'est réellement la consigne, mais si c'est vraiment la consigne, enfin, c'est des consignes que tu donnes en tout sens.
Je t'invite à regarder les matchs, tu verras que ça ne peut être qu'une consigne.
Oui, non, mais
sur le match d'hier, j'étais stupéfait de voir. Notamment, on voit très bien une prise de balle de haut but de Nicolas Pépé à un moment, qui tourne la tête en attendant son latéral. Et son latéral personne. Est en train de courir, mais il s'arrête. Et il ne poursuit pas son appel. Et il vient se replacer sagement. Alors, c'est peut-être le moment du match. Il fallait pas prendre de but à ce moment-là, peut-être. Mais c'est depuis le début de la compétition, c'est extrêmement frileux. Le jeu de la Côte d'Ivoire. Ils se sont dit, on a des individualités, on va mettre le ballon devant, ils vont faire la différence, mais ils n'y arriveront pas toutes les fois.
Il en est où dans cette équipe, Serge Aurier? Parce qu'il pourrait avoir ce boulot.
Justement, Serge Aurier a joué. Il y a d'autres latéraux qui ont été essayés, mais pour le moment, c'est encore une fois vraiment très faible. On va dire que le point fort de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être ses supporters. qui sont là. Ça fait partie des quelques supporters.
Tu fais de l'Algérie, le grandissime.
Dans cette CAN, oui, c'est assez rare pour être signalé.
On présente le CAR comme l'affiche, mais là, c'est plus l'affiche. On est en train de dire qu'en fait, l'Algérie va, a priori, passer sur le corps des Ivoiriens. T'as mal à ta Côte d'Ivoire.
En tout cas, regarde de ce que l'on a vu sur les 4 premiers matchs des deux équipes, ça semble être une évidence.
Ah oui, c'est clair.
On a eu énormément de surprises dans cette CAN. Ouais.
L'affluence dans les stades, on en parle, c'est une catastrophe. Quoi. Il y a encore personne. Quoi.
Alors, de deux choses l'une, il faut quand même mettre des choses.
En avant les questions de sécurité dont Gilbert.
Il y a les questions de sécurité. Il y a le changement de destination de la CAN 6 mois avant la compétition.
Oui, c'est vrai.
Il y a quand même des supporters pour qui l'organisation d'un déplacement pour une Coupe d'Afrique des Nations, c'est coûteux.
Bien sûr.
Au dernier moment, devoir changer, d'aller dans un pays moins bon marché que le Cameroun.
Départ,
voilà.
Oui.
C'est sûr que ça refroidit beaucoup de monde.
Ils sont passés à 24.
En fait, ce qui m'a surpris en allant dans ce pays, c'est que j'avais l'image de l'Égypte comme étant un grand pays de foot.
Ouais, bien sûr.
C'est un pays de foot, à n'en pas douter, quand on voit les affluences de Zamalek. À huis clos, parce que ça fait quand même des années que c'est compliqué. Mais c'est un vrai pays de foot, mais quand même très auto-centré. C'est-à-dire que à part l'Égypte,
le reste les intéresse pas beaucoup.
Non, pas vraiment, même pas du tout.
Ouais. On parlait de Serge Aurier il y a quelques instants, une information que l'on a appris hier après la victoire face au Mali 1-0. Donc c'était lundi en huitième de finale, Serge Aurier qui était sur le banc de touche et Serge Aurier qui à la mi-temps a voulu taper du poing sur la table, comme on dit, sauf qu'il s'est blessé au poignet. Voilà, il est sorti avec une attelle et donc voilà.
La table était dure.
Exactement, il a tordu ses doigts. Voilà, c'était un peu trop dur pour...
Non, c'est une vraie info ça, je sais.
Ah, c'est une vraie information, Serge Aurier qui s'est blessé en frappant une table, voilà, en frappant à la mi-temps.
Ah oui, d'accord. Ah, l'expression prend tout son sens, là.
Voilà.
Frapper sur la table, ouais.
Voilà. C'est taper du poing sur la table.
Taper du poing sur la table, oui, pardon.
Il était plus inspiré quand il fumait de la chicha, hein, que quand il voulait faire des causeries à la mi-temps.
Ça y est.
En tout cas, ce match, c'est Algérie-Côte d'Ivoire et c'est l'affiche. Ce sera jeudi à 18h à suivre en direct, en intégralité, sur RMC, évidemment.
L'affiche, là, pour le coup, qu'est-ce qu'il nous a raconté sur la Côte d'Ivoire? A priori, c'est un grand solo de l'Algérie auquel il faut s'attendre.
Encore une fois, on a parlé de la Côte d'Ivoire.
Oui.
On les a descendus, c'est une certitude, mais ce serait mentir de dire qu'ils ont été bons. Reste qu'il y a quand même des joueurs comme Pépé, comme Max-Alain Gradel, comme Khodija, qui sont capables de faire des exploits.
Et l'Afrique du Sud, ils jouent contre le Nigeria.
Absolument.
Oui, ceux qui ont vaincu les.
On va y venir.
Oui, pardon, monsieur.
Nous avons une trame dans cette émission. Sinon, ça sert.
Il y a un conducteur. On a pas donné le conducteur. Moi, j'ai eu le conducteur. Hein.
Moi, ça sert à rien que j'arrive à 9h du matin pour 21h pour être prêt. Voilà.
On me dit dans l'oreillette que c'est faux et que tu arrives à 14h.
Oui.
14h.
Et ça aussi, c'est faux.
Si seulement.
Ah oui, d'accord. Ah. J'enlève l'oreillette et j'entends 16h.
J'ai appelé Timothée.
Mais il y a un ordinateur, il est payé pour faire
un point sur cette émission. Non, absolument pas, mais évidemment, comme chacun sait. C'est la qualité du travail
qui compte.
Et puis, il faut qu'après l'émission soit tenue de bonne facture.
J'ai pas respecté le conducteur, mais du coup, Nigeria.
Non, mais je sais, si tu fais en 2 heures le travail que certains font en 6 heures,
si Gilbert Bribois est un besogneux, j'ai aucun problème avec ça. Et moi, j'ai aucun problème à le dire à l'antenne.
Exactement.
J'aurais plus de mal après à lui dire en face parce que c'est le boss, mais. Bon, bref. Oui, donc il y a évidemment, c'est travailler toutes les séquences que l'on fait avec Timothée, ce côté ping-pong. C'est évidemment un jeu d'acteur. Il y a quelques instants, on parlait d'Algérie-Côte d'Ivoire. Nous avons déjà évoqué ce Madagascar-Tunisie avec notre invité, le gardien de but de Madagascar, qui était avec nous en direct dans l'after il y a quelques instants. Mais j'aimerais que l'on dise un mot, car tu as pas mal de choses à nous dire, sur le Congo, la République démocratique du Congo, qui a été sortie par Madagascar au tour précédent, au tir au but, et le Congo qui n'a pas vécu une CAN sereine.
Absolument, je me suis très largement ridiculisé en début de compétition en plaçant le Congo parmi les favoris au regard de leur parcours. C'est vrai que quand on regardait l'équipe du Congo, il y avait une équipe costaud, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour réussir, mais il faut mettre quand même au détriment de cette formation les conditions dans lesquelles ils ont vécu cette Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs ont vraiment vécu une Coupe d'Afrique des Nations galère et c'est vraiment pas de leur faute. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. On a vraiment eu droit à un drame en trois actes finalement pour le Congo. Je vous rappelle d'abord l'épisode d'avant compétition. trois semaines, quatre semaines avant, en stage à Marbella. Ils font tous les tests physiques nécessaires, les tests obligatoires envoyés à la CAF pour disputer la compétition. Ils les envoient dans les temps, pas de problème, sauf que le médecin avait oublié de les signer. Résultat, veille de match, ils ont passé la journée à l'hôpital du Caire au lieu de s'entraîner. Le matin du match, ils ne se sont pas entraînés dans le premier match et ils réalisent une première prestation médiocre.
Pour refaire tous ces tests toute la journée.
Pour refaire tous ces tests
le doc
toute la journée. Ils ont
signé la batterie de test.
Ça n'est que le début. Le soir de leur premier match piteux, ils se fendent d'une vidéo d'excuses que vous avez peut-être vue. Une vidéo qui paraît complètement prématurée. On voit d'ailleurs très bien que le texte est lu, mais que les joueurs n'y croient pas tellement. Finalement, quand on joue au football, la défaite fait partie.
C'est une des données.
S'excuser après le premier match, s'excuser auprès du peuple congolais, ça part sûrement d'une noble intention. Mais n'est-ce pas un peu prématuré? Ils se sont mis dans la crise tout seuls. Et puis pour finir, je ne sais pas si on va pouvoir voir, pour ceux qui nous regardent, une vidéo terrible de fin de compétition après l'élimination du Congo. On va essayer de le décrire pour ceux qui nous écoutent. Un homme en train d'être littéralement assailli, qui est en train d'être passé à tabac. Cet homme-là, c'est le ministre des Sports du Congo, qui se trouvait être chef de délégation de la délégation congolaise. Sachant que ça arrive dans beaucoup de pays africains, d'ailleurs pas que dans des pays africains, les supporters qui font un déplacement ont droit à une aide, une subvention qui est variable. Par exemple, les écureuils du Bénin avaient droit à une subvention de près de $1,000. C'est quand même beaucoup pour se déplacer, à condition de présenter un billet d'avion, une réservation d'hôtel et des places pour le match. En échange de ces preuves, on vous donne $1,000 pour que vous puissiez aller, pour contribuer à votre déplacement.
C'est bien.
Il se trouve que les $1,000 des supporters congolais ont disparu, d'où leur grosse colère contre le ministre des Sports, chef de délégation. Où est passé cet argent? Les supporters se posent encore la question. Bref, ça fait beaucoup pour une compétition de cette ampleur.
C'est bien triste.
Voilà. D'autant qu'il pourrait s'ajouter à ça quelques affaires internes à l'hôtel des joueurs. Encore une fois, où les joueurs ne sont absolument pas à remettre en cause, mais plutôt le staff, l'organisation, qui font qu'ils ont vécu une canne terrible et qu'il y a énormément de déceptions, énormément d'amertume. Je discute avec certains joueurs de cette sélection par SMS interposé et il y a beaucoup d'amertume de pas avoir pu disputer crânement leur chance. Ils étaient en quart de finale lors de la canne précédente. Ils avaient gagné leurs trois matchs de poule.
Et ça s'est joué à rien là, hein, parce que c'est évidemment une séance de tir au but face à Madagascar.
Ils étaient déjà miraculeusement en huitième.
Ça se joue à rien, sauf que quand tu joues une CAN ou toute compétition d'ailleurs dans ces conditions-là, les détails qui de l'extérieur apparaissent comme des détails n'en sont pas en fait. C'est juste le retour de bâton de pas avoir pu professionnellement préparer une compétition de ce niveau.
Nous allons évoquer dans quelques instants les deux autres quarts de finale, Sénégal-Bénin et Nigeria-Afrique du Sud. Mais il y a Yao qui nous appelle depuis très longtemps maintenant et j'aimerais le prendre avant la petite page de publicité. Supporter du Togo, qui n'a évidemment pas participé à cette CAN, mais j'imagine que Yao, bonsoir, tu as un regard assidu sur cette CAN.
Bonsoir la Dream Team de RMC depuis Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor.
Bonsoir.
La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose vraiment d'inédit, du jamais vu depuis 1957, parce que on peut dire que c'est la Coupe d'Afrique des Nations des équipes supposées faibles. Donc, allô?
Oui,
j'ai eu peur, je lui dis, ils sont en train de faire la sieste ou pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc là, je dis ce qui s'est passé. La star de cette compétition, je pense que c'est le niveau des équipes africaines. Parce que tout ce qu'on est en train d'écouter religieusement sur le plan sportif, on fait allusion comme le Diplodocus, pour ne pas dire les pyramides d'Égypte, les pharaons, 7 fois champions d'Afrique, rentrés à la maison, puisqu'ils sont déjà à domicile. Et on voit aussi les lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique. Et on a vu aussi tout ce qui est les Black Stars, ce qui s'est passé hier. Donc c'est beaucoup le cataclysmique du football africain. Et ça donne la beauté, le côté vraiment, le charme, des équipes africaines. Justement, revenons concernant les écureuils du Bénin. On connaît très très bien, ça fait des années, puisque c'est le pays voisin des éperviers du Togo, pour ne pas citer chez Emmanuel Adebayor, parce que cette équipe, ils ont quelque chose de singularité parce que c'est le côté collectif. Ils n'ont pas de grands stars comme dans les autres équipes qu'on vient d'énumérer et qui ont gagné plusieurs fois, ou le Cameroun. Donc cette équipe, excepté Stéphane Cessignon, ils ont quelque chose. Ils n'ont rien à perdre. C'est quoi? Lorsqu'on fait le cursus sportif de cette équipe qui est les Écureuils, c'est 4e participation à la Coupe d'Afrique. Ils sont jamais qualifiés de match de poule. Moi, je peux dire que le rêve est déjà obtenu. Pour ne pas citer les Zébus du Madagascar ou les Barias, les Zébus, eux, c'est encore plus énormissime par rapport aux Écureuils. Parce que jamais dégusté la Coupe d'Afrique des Nations depuis 57. Et à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qui prouve qu'ils vont taper le Sénégal demain? Personne, le pas le Sénégal, le prochain match, le Madagascar, ils vont les aigles de Carthage. Personne ne sait. Parce que sur le plan mental, éthique, ou même psychologique, l'objectif est atteint. C'est ça, moi, le côté là,
Yao,
je réponds vigoureusement. Puisque.
Ah ben non, mais.
Yao, tu es pour qui? Tu es pour qui dans cette cas?
Actuellement, j'ai un passion pour les équipes, comment ça s'appelle, les novices. Là, je dis, pourquoi pas les Écureuils, puisque c'est les pays voisins, ou le Madagascar. Moi, je défends vigoureusement, parce que ces équipes-là, personne ne les voit. Les soi-disant, les spécialistes, tout ça. Les spécialistes, moi, je dis à mon humble avis, n'existe pas. Le meilleur spécialiste, c'est le terrain. Il n'y a que eux qui croient.
Je suis d'accord, j'ai envie de virer tout le monde dans RMC. J'ai envie de virer tout le monde dans RMC. Merci beaucoup. Reste avec nous,
monsieur Mémon, arrêtez.
Vous connaissez bien l'émission, je vous ai dit plusieurs fois, vous pouvez intervenir quand vous voulez dans les Côtes d'Armor, radioactive via Africa 22 Sports, l'émission qui défend vigoureusement les valeurs sportives de l'Afrique à travers la Bretagne. Vous pouvez passer quand vous voulez, puisque
c'est gentil.
Bien, puisque vous faites votre tête, vous ne voulez pas passer. Donc moi, je vous invite religieusement à venir
écoute, à l'émission. Avec grand plaisir, quand on sera dans le coin, François, Pierre, Timothée, on ira avec grand plaisir. Là, merci beaucoup pour cette invitation, Yao.
Merci.
On a bien compris que tu étais surtout pour les surprises, forcément. On a envie de les petits pousser, on a envie de les pousser, de vibrer pour eux. Tu as bien raison. Mais on se retrouve dans quelques instants pour de nouveau évoquer la CAN. On va reparler d'ailleurs des Écureuils du Bénin, mais également du coup de cœur de notre ami Timothée Mémon pour l'Afrique du Sud. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
La dernière ligne droite de l'After, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, il est 23h47. Sachez que demain, vous retrouverez Gilbert Bribois à partir de 21h. Toujours avec Pierre Ducrot, François Malardeau et Timothée Mémon, nous ripaillons. Longtemps qu'on n'emploie plus ce mot ripailler.
Oui.
Pas mal ripailler.
Oui,
nous ripaillons donc sur la CAN depuis une heure maintenant. Et nous vous parlons de ces quarts de finale. Je vous rappelle d'ailleurs ces quarts de finale, Sénégal-Bénin, Nigeria-Afrique du Sud, Algérie-Côte d'Ivoire et Madagascar. Tunisie, justement, nous avons déjà évoqué les deux derniers quarts de finale qui se disputeront jeudi, Algérie-Côte d'Ivoire et Madagascar-Tunisie. Parlons de Sénégal-Bénin. Et cette équipe du Bénin, d'ailleurs Yao nous l'a dit, qui a eu aussi du mal dans cette compétition, qui est l'autre surprise de cette compétition, qui a battu le Maroc, hein, si je ne me trompe pas, et ça a été une énorme surprise, le Maroc en huitième de finale. Et alors, j'avais lu quelque chose depuis quelques mois, et je ne sais pas si on a d'autres informations dessus.
J'ai creusé, puisque nous en avons
parlé.
Tu
as creusé ?
Vas-y.
Extraordinaire. J'anime, vous le savez, le samedi, le RMC Sport Show, et j'avais fait un jeu avec Stephen Brun et Denis Charvet et Roland Courbis, et je leur avais fait deviner ce truc-là qui était indevinable. Mais sachez que les Béninois, qui s'appellent donc les Écureuils depuis des décennies, eh bien, ont voulu un nouveau symbole, plus intimidant que s'appelaient les Écureuils. Et donc, la Fédération Béninoise de Football souhaitait changer le surnom de son équipe nationale et avait mis en place une consultation en ligne pour proposer un nouveau nom. Et ça, c'était en octobre dernier. Est-ce que ça a avancé, cette histoire du Bénin ?
Ça a fait un bide total, puisqu'il y a très peu de joueurs qui se sont prêtés au jeu. J'ai trouvé une interview de certains joueurs qui expliquent que c'est pas le surnom qui te fait gagner. Il y avait notamment une réponse très intéressante. Bref, tout ça pour dire que ça n'a rien donné. On les appelle encore les Écureuils, on les appellera les Écureuils encore longtemps. Mais il y avait un exemple qui était très bon, je trouve, de la part d'un des joueurs béninois qui disait le coq français a remporté deux fois la Coupe du Monde, jusqu'à preuve du contraire, les lions indomptables, les guépards et autres n'en ont jamais gagné une.
C'est marrant.
Ouais. C'est parfait comme réponse. Voilà, au moins j'ai réussi à élucider le mystère, parce que toutes les semaines, tous les samedis soirs, j'allais sur Internet et j'essayais de regarder.
Muté
piquer ou pas, quoi.
Exactement. Et en fait, bah, ça s'appelle toujours les écureuils. Un mot sur ce Sénégal qui évidemment était présenté comme l'un des favoris de cette compétition, mais qui a eu quand même du mal depuis le début de cette CAN.
Oui, un jeu relativement moyen. On n'a pas ce Sénégal qui nous a habitué à un jeu flamboyant, un jeu, j'ai envie de dire, festif. Loin de là, on a une équipe sérieuse avec un milieu de terrain, on va dire, un petit peu bridé dans son système. Là encore, un petit peu comme ce qu'on disait sur la Côte d'Ivoire, on a une équipe où on a eu le sentiment qu'ils se sont dit, on va bien défendre, donner le ballon à Sadio et il va faire le reste. Pour le moment, ça reste très compliqué pour le Sénégal dans le jeu, mais c'est à l'image de l'ensemble de la CAN. On espère justement qu'il va y avoir à partir des quarts un petit regain d'intérêt et de spectacularité, si tu me permets ce néologisme.
Bien sûr, tu as senti que cette CAN avait un niveau de jeu très moyen, surtout cette année.
Alors, je trouve, et on va y venir, et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait sur Madagascar. Il y a un niveau de jeu moyen, et je trouve qu'il y a un niveau tactique, surtout, qui est assez faible. Et les équipes qui s'en sortent sont les équipes qui font preuve de sérieux. Pas forcément de talent, mais de sérieux. Et on parlait tout à l'heure de Madagascar. Madagascar n'a pas d'incroyable talent en son sein. En revanche, ils sont très sérieux. Le repli défensif est fait de façon scolaire, j'ai envie de dire. Et ça fonctionne face à des équipes. Ça m'ennuie de pas retrouver l'exemple. Il me semble que c'est l'Égypte. L'Égypte, justement, contre l'Afrique du Sud. Passé la 60e minute de jeu, c'était la et composition, c'était du 5-5.
Tu veux dire de culture tactique ou bien de mise en place et d'animation dans le jeu pour les équipes?
J'ai les deux. Alors, la sensation que j'ai au regard de ce que j'ai pu observer, ouais, c'est qu'il y a une idée de départ. Et que, au fil de la rencontre, elle se délite complètement.
Oh, ben ça, il n'y a pas qu'à la CAN, hein.
Il n'y a pas qu'à la CAN, mais c'est pas
majorité, ça, hein.
Et les équipes qui s'en sortent, on a parlé du Bénin à l'instant, le Bénin, il n'y a pas de génie. C'est une bonne équipe de Ligue 1, le Bénin, hein. C'est Adenon, Adeoti, Imorou, il y a David Kiki qui joue à Brest, c'est Seignon, Mounier. Bref, ce sont des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas d'immense star à la Sadio Mané, mais ce sont des équipes qui ont accepté de mettre en place un système parfois très simpliste, mais de l'appliquer à la lettre.
Mais je pense justement, que ça va bien pour les sélections. Parce qu'on, pardon, mais vas-y. Après, je voudrais rebondir sur les deux remarques sur le niveau et la culture. D'abord, le niveau général de la CAN. On est tous d'accord pour dire qu'il est franchement pas emballant, mais c'était également le cas des dernières éditions.
Mais la Copa América, c'est pas extraordinaire non plus.
T'es passé à 24. Alors ok, on a des surprises, mais le fait que tu passes à 24 dans une confédération qui compte 53 ou 52 fédés, c'est un peu comme l'euro, hein. Plus tu invites du monde à table et plus la qualité s'en ressent. Après, je sais pas combien de temps en moyenne ils ont eu pour se préparer. C'est du jeu de sélection, c'est pas du jeu de club. C'est des joueurs qui se fréquentent mais qui se connaissent pas à fond parce qu'ils sont pas ensemble toute la semaine. Donc moi je suis pas surpris aussi de voir des équipes qui essayent déjà de bien défendre, d'avoir une bonne assise défensive. Et puis après, alors en plus, quand t'es des sélections où tu as un joueur africain qui joue en Europe comme Mané, ils ont une culture tactique maintenant, je comprends qu'ils se disent, et on n'a pas le temps vraiment de préparer quelque chose, donc ouais. Et quand il s'agit de basculer sur les phases offensives, on file le ballon à un tel et il est créatif, il va se débrouiller. Mais offensivement, ouais, c'est difficile d'avoir un jeu flamboyant en sélection, mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on veut pas entendre. Parce qu'on pense que les sélections, mais oui, mais pourquoi ça joue pas comme ça, le style? Le style, c'est quand tu es dans les formations de jeunes et que tu arrives à le répéter jusqu'à la sélection A. Voilà. En Europe, l'Espagne le fait, l'Allemagne s'y met. Nous, on a peut-être toujours pas compris qu'il fallait le faire depuis les U16 jusqu'au A.
Si, on le fait, mais dans un autre style.
Physique.
Bah, tactiquement bien organisé, physique.
Ouais, tactiquement bien organisé.
D'où le succès jusqu'à présent.
Bien organisé,
qui ont décidé de faire
d'abord,
simple,
d'abord
de faire
son jeu défensif.
Ça te plaît pas, François, mais ça,
c'est pas une, mais moi, c'est pas une question de goût. Pour moi, mais pour moi, on essaie de bien le faire défensivement. Et après, moi, quand tu vois, bon, on est en train de faire une digression, mais quand tu vois l'Euro et tu vois ce que faisaient les Allemands et les Espagnols, les deux finalistes, offensivement, je vois une signature. Et je sais très bien que cette signature-là, c'est pas comme ça, juste les semaines de préparation avant l'Euro. Ouais. C'est pas les semaines de préparation, les deux semaines de préparation avant l'Euro. C'est que c'est mis en place chez les jeunes.
Timothée, tu nous parlais d'équipes structurées et justement, tu voulais nous parler de ton coup de cœur de cette CAN. Pour toi, c'est l'Afrique du Sud qui affrontera demain le Nigeria.
c'est un de mes coups de cœur. C'est un de mes coups de cœur aussi parce que j'ai eu la chance d'aller à la Coupe du Monde en Afrique du Sud et que j'ai passé absolument.
Ça me fait drôle d'entendre ça.
J'ai passé un mois merveilleux et des souvenirs fabuleux près de Nice-Nam. Mais ça m'a effectivement.
La région est belle. Allez-y. Vous voulez faire du tourisme? Allez à Nice-Nam.
Rien à voir. Non, voilà, cette équipe de Stuart Baxter, c'est l'archétype de ce que je définissais il y a un instant. Une équipe qui, depuis le début de cette compétition, joue dans un 4-4-2 à plat, mais encore une fois, on ne peut plus scolaire. On le disait tout à l'heure en rigolant, mais c'est le jeu dans lequel je jouais quand j'avais 16 ans, dans lequel on joue en équipe le dimanche parce que c'est le plus simple à comprendre. Le replacement est le plus simple possible. Chacun reste dans son rôle et ils le font extrêmement bien avec deux attaquants. Ce sont quand même les deux stars de l'équipe, Persito et Lebo Motiba. C'est pour vous dire, ce sont les stars, hein, Lebo Motiba, qui est un joueur charmant, mais le joueur Strasbourg, qui défendent énormément, qui font le boulot, qui se taisent, qui sont d'une gentillesse exceptionnelle en dehors du terrain, et ça ne gâche rien. Bref, vraiment une sélection agréable à suivre.
Et ton autre coup de cœur, c'est sur l'arbitrage. Pourquoi ?
Absolument. Depuis le début de la compétition, je travaille avec vous tout au long de l'année, on passe notre temps à parler de l'arbitrage. Eh bien, je trouve que l'arbitrage africain est excellent. On a vraiment vu des super matchs. Il y a eu deux matchs, j'ai repéré deux matchs, avec limite de légères erreurs, notamment le match d'hier où un but a été refusé, effectivement le Ghana-Tunisie où un but a été refusé au Ghanéen pour une faute de main, une mauvaise interprétation de l'arbitre. Mais bref,
tu l'avais dans tes notes, celle-là. Tu le retrouves pour mettre peut-être l'arbitrage en vert.
Elle est trois pages avant, c'est ici, bon. Et c'est Victor Gomez, l'arbitre sud-africain de cette rencontre. Merci, qui est peut-être passé à travers. Mais si on est capable de pointer deux matchs sur une compétition, c'est bien la preuve que pour le reste, l'arbitrage est très bon.
Tu vas voir à partir des quarts, c'est l'arrivée de la VAR, les amis.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
À partir des quarts, ça va commencer à partir en 7.
Aucune chose, c'est que cette analyse soit détruite par la VAR, puisque je suis convaincu de l'inutilité de ce dispositif. Mais bref, jusqu'à présent, on a vraiment un arbitrage de haute qualité en Afrique.
Et par rapport à cette question de l'arbitrage, est-ce que tu pourrais nous retrouver cet excellent arbitre de ce huitième de finale? Oh mon Dieu, entre le Nigeria et le Cameroun. Moi, j'ai fait une analogie entre, pour ceux qui s'en souviennent, Robert Wurtz. Non, Pierre, toi, t'as pas connu. Non,
Robert Wurtz. Si, bien sûr que si.
Mais j'avais
trouvé le type. Mais Interville.
Il avait Interville, Robert Wurtz.
Bien sûr.
C'était quelle différence? C'était Nigeria Cameroun. Il était exceptionnel dans le dialogue avec les joueurs et cette façon charmante d'affirmer son autorité.
Alors c'est parfait, mais moi j'avais envie de vous proposer un petit jeu pour terminer cette heure. Mais très rapidement sur 30 secondes pour savoir si vous connaissez bien la CAN. On va jouer sur le palmarès de la CAN. C'est plutôt sympa, non?
Ouais.
Qui est le pays qui a remporté le plus la CAN?
L'Égypte, je peux jouer,
oui. Oui, bien sûr que tu joues, Timothée Clément. L'Égypte, c'est une bonne réponse avec 7 CAN. Qui est en deuxième avec 5 CAN?
Le Cameroun.
Le Cameroun, c'est une bonne 2-0. Réponse. 2-0 pour François Manardo. Qui est le troisième avec 4 CAN?
Non, j'allais dire Sénégal, mais non.
Attends.
J'arrête de jouer.
Ils étaient en huitième de finale. Non, le Ghana, c'est une bonne réponse de Timothée Mémon. Qui en a trois? Qui est le quatrième pays? Comment?
L'Éthiopie.
S'est fait sortir des huitièmes de finale.
Maroc. Côte d'Ivoire. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire dans le Maroc.
Maroc, Mali.
Si je vous dis à Mokashi. Nigeria, c'est une bonne réponse. Ça fait 3-1. On va jouer avec les deux pays qui en ont deux. Voilà, il y a deux pays qui en ont deux et on va s'arrêter.
Voilà. L'Éthiopie?
Non,
pas du tout.
Merde. L'Éthiopie.
Ah non, mais c'est la première édition en Éthiopie.
L'Éthiopie peut-être. A gagné une fois la CAN.
A gagné une fois. Qui en ont deux.
Voilà. Il y a un pays. On a longuement parlé d'un des deux pays ce soir et l'autre pays est en quart de finale. L'un s'est fait sortir par l'autre.
La Côte d'Ivoire, non,
la Côte d'Ivoire, c'est une bonne réponse.
Non, j'ai dit non,
que l'autre, c'était le grand favori pour Timothée Mémon.
L'Algérie?
Non. Au début de la compétition.
Mais non.
Le Congo.
Le Congo.
Il n'y a pas la question, mais le Maghreb est un parent pauvre de la CAN. Hein. Je crois qu'ils ont les trois, si on fait
un Maroc,
un Tunisien, un Algérie.
Un Algérie et un Tunisie, ouais. Exactement. Décidément, celui qui connaît mieux la CAN, c'est François Manardo. Ça a été ce soir un véritable.
J'ai africain, c'est pour ça, j'ai pas de mérite.
Ça a été ce soir un véritable festival de CAN. 23h59, merci à tous de nous avoir suivis. Toujours.
Voilà.
Toujours. Voilà. finissez avec un bon mot. Ça ne mange pas de pain. On vous embrasse. Passez une très belle soirée.
Tu t'en vas comme un prince.
RMC. L'After Foot.